Chapitre 6. Attristée par ce désappointement, l'imagination vide d'espoir et de projet, Siméon et Ferdine rentrèrent dans la routine quotidienne d'études et de travaux domestiques ou une petite querelle de Ferdine avec Ernest. Les jolis portefeuilles gris furent logés tout au haut d'une armoire. On ne parla plus de botanique, ce mot seul était trop douloureux. Quelquefois, par habitude, Siméon serrait encore une plante entre des feuillets de papier gris. Alors Ferdine détournait les yeux, craignant de réveiller en elle-même le chagrin qu'elle avait eu tant de peine à calmer. Les leçons de latin se poursuivaient régulièrement. Siméon faisait de grands progrès. Au bout de 4 mois, il savait fort bien son rudiment et avait rempli 3 gros cahiers de thèmes et de versions. « Tu vas trop vite, lui disait Ferdine. En 2 sauts, tu m'auras rattrapé, et que feras-tu alors ?»«
Je continuerai tout seul. »
« Eh bien, tu es gentil, disait-elle avec une petite moue, mais très fière au fond de voir son grand élève avancer si rapidement. À l'école, Siméon expédiait ses devoirs en un tour de main, puis se plongeait dans de gros livres d'histoire naturelle, de géologie, que son obligeant instituteur lui prêtait, ou même empruntait pour lui à des collègues dont la bibliothèque était mieux montée que la sienne. « C'est fort bien, mais tout cela ne nous mène à rien. » pensait Ferdine, dont la préoccupation constante était cette grosse somme de 500 francs qu'il fallait absolument procurer à Siméon. Elle avait l'esprit si absorbé par ce problème qu'elle en oubliait ses batailles avec Mademoiselle Caton. Le temps des grandes escarmouches n'était plus, le règlement régnait sans conteste, Ferdine passait des journées entières sans donner prise au moindre pensum, elle semblait avoir oublié jusqu'au nom du village des Mouchettes. Mademoiselle Caton commençait à s'en alarmer sérieusement. Cette petite couve une maladie, se dit-elle un jour en regardant Ferdine, appliquée, silencieuse, penchée sur un ourlet interminable auquel elle travaillait depuis une grande heure, sans avoir levé une seule fois les yeux vers la pendule. C'est que les pensées de la fillette voyageaient dans le lointain avenir, tandis que ses doigts tiraient machinalement l'aiguille et piquaient dans la toile de petits points pas trop égaux. Passant à tire-d'aile au-dessus des obstacles, son imagination embrassait d'un seul coup d'œil de grands espaces, des pays et des années. Siméon faisait ses études, il les avait faites, il était professeur. Professeur ? Non, c'était bon pour M. Pomponel. Pour Siméon, il fallait quelque chose de mieux. Il recevrait une mission scientifique, on voit cela tous les jours dans la gazette que papa reçoit. Alors il partait, il venait dire adieu à Ferdine, à tante Cornélie, à Ernest, puis il passait la mer et il courait des dangers. Oh, des dangers ! Mais il se tirait de tous les mauvais pas et il faisait des découvertes. Dans des rochers, dans des grottes, il trouvait des choses pétrifiées. Des dents de poisson ? Non, cela est trop commun. Chacun peut trouver des dents de poisson fossiles. Même le petit musée du village, qui tient tout entier dans 2 vitrines, en possède 4 ou 5 de ces vilaines dents pointues. Siméon découvrira autre chose. Un animal fossile tout entier dans la caverne. Comment donc s'appelle cette affreuse bête antédiluvienne, moitié crocodile, moitié... Un plésiosaure, c'est cela. Siméon découvrira un plésiosaure parfaitement conservé, le seul plésiosaure complet qui existe. Ça lui est bien dû quand on songe à tout le mal qu'il se donne pour devenir savant. Et l'aiguille trottait, trottait, et l'imagination faisait 100 lieues à la seconde, Siméon arrivait au pinacle des honneurs et de la fortune. « Frédégonde, vous prenez de trop longues aiguillées. »«
Oui, ma bonne, » répondit Ferdine d'un ton rêveur.
« Avez-vous entendu ce que je vous ai dit ?»«
Certainement. »
Mademoiselle Caton hocha la tête. « J'en parlerai à son père, se dit-elle. Cet enfant tombe dans une langueur. » Le soir même, elle frappait à la porte du cabinet du docteur. « Monsieur, » dit-elle d'une voix lente et creuse, pour le préparer à la pénible révélation. « Mademoiselle Frédégonde est couchée. »«
C'est fort bien, » répondit M. Arvoine, en continuant à écrire dans le grand registre où il notait journellement l'état de ses malades.
« Je l'ai envoyé au lit une demi-heure plus tôt qu'à l'ordinaire. »«
Vous avez raison, il faut beaucoup de sommeil aux enfants. »
Elle a obéi tout de suite sans dire mot.
« J'en suis charmée. » Et vous trouvez cela naturel ? S'écria Mlle Caton. Étant donné le caractère de Mlle Frédégonde, que je connais bien, ayant passé des années à le diriger, étant dans votre maison exprès pour cela, ce qui, me fournissant des indications que l'état présent n'étant pas normal. De quoi s'agit-il ? Demanda le docteur qui ferma son registre. Tâchez de vous expliquer clairement. Il s'agit de la santé de Mlle Frédégonde, monsieur le docteur. En votre qualité qu'étant son père, vous serez fâché d'apprendre que Mlle Frédégonde tombe dans un état de langueur. Ici, la voix de Mlle Caton trembla, car ses alarmes étaient sincères. À force de gronder Ferdine, elle s'était attachée à elle. Elle l'aimait, à sa façon revêche et tyrannique. Elle l'élevait de son mieux et n'avait pas d'autre objet au monde que d'en faire une jeune personne accomplie par le moyen du règlement. « Que me dites-vous là ? » fit le docteur avec un demi-sourire. Il voyait sa fille chaque matin et n'avait rien remarqué qui justifiait le lugubre diagnostic de Mlle Caton. « Elle devient anémique, monsieur. Elle est docile comme un mouton à roulette. Je n'ai qu'à tirer la ficelle pour la faire aller à droite ou à gauche, si je puis me servir de cette image. » Elle n'a plus ni réplique, ni méchanceté, ni entrain, ni rien. Elle ferait des kilomètres d'ourlet sans seulement s'en apercevoir. Ici, Mlle Caton sentit l'émotion la gagner à tel point qu'elle dut s'enfuir et tamponner ses yeux à diverses reprises derrière la porte. Puis elle monta furtivement l'escalier, prêta l'oreille, mit son œil à la serrure de Ferdine, n'entendit rien, ne vit rien, et redescendit chez elle pour consulter un gros cahier vert qui contenait des recettes de remèdes domestiques contre tous les maux, depuis l'hypocondrie jusqu'aux engelures. Le lendemain matin, en ouvrant les yeux, Ferdine vit à son chevet Mlle Caton, qui tenait à deux mains un bol immense plein d'un breuvage inconnu. « Buvez cela, Frédégonde !» dit Mlle Caton. « Cela, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? De la tisane ? Est-ce que je suis malade ?» fit-elle, encore à moitié endormie et se frottant les yeux. « Vous n'êtes pas dans votre assiette. Apportez-m'en une alors, et non pas un bol, » dit Ferdine en riant. Mais Mlle Caton poursuivit d'un ton mélancolique et mesuré qui fit impression sur la fillette. « Vous avez besoin d'un tonique. Buvez ceci ou je ne réponds de rien. » Il paraît qu'on peut être très malade sans le savoir, pensa Ferdine, et elle but la tisane en s'y reprenant à plusieurs fois, car le bol semblait vraiment sans fond. Puis elle se hâta de s'habiller. Il lui tardait de consulter le dictionnaire pour savoir au juste ce que c'est qu'un tonique et à quoi cela sert. Pendant le déjeuner, elle crut s'apercevoir que son père la considérait plus attentivement que de coutume, et quand elle entra avec lui dans la chambre d'études, il la fit asseoir près de son fauteuil, en pleine lumière, dans l'embrasure de la fenêtre. « Tu as bien dormi ? » lui demanda-t-il. « Mais oui, papa, très bien, je te remercie. »« Qu'as-tu rêvé ? » ?»« Rien du tout. » « Ah si, pourtant, j'ai rêvé que Siméon trouvait une taupe au fond d'un grand trou et que cette taupe... »« Bien, bien, t'es-tu réveillé en sursaut ?»« Oh non, je ne me réveille jamais avant que Mlle Caton frappe à ma porte. »« C'est parfait, si tu te sentais un peu de fièvre ou quelque autre malaise, tu me le dirais, n'est-ce pas ?» Il lui fit encore diverses questions auxquelles Ferdine, qui n'avait connu de sa vie ni mal de tête, ni manque d'appétit, ni palpitations, répondit avec étonnement. Son père n'ajouta rien jusqu'à la fin de la leçon. Il l'écouta réciter les jolies pages de Bernardin de Saint-Pierre sur le fraisier, qu'elle avait apprises par cœur, puis il lui donna un problème d'arithmétique à résoudre. Ferdine le parcourut des yeux avec quelque attention d'abord. Il s'agissait du partage proportionnel d'une somme de 500 francs entre trois ouvriers qui avaient travaillé pendant un nombre inégal de jours. Mais bientôt, ses pensées glissèrent par cette pente vers leur but ordinaire. Une somme de 500 francs, c'était précisément ce qu'il fallait à Siméon. Elle se mit à rêver à cette coïncidence remarquable au lieu de chercher la solution de son problème. La joue sur la main, les yeux en l'air, la mine soucieuse, elle ne voyait pas que son père la regardait avec attention depuis quelques minutes. Enfin, il se leva et vint se placer près d'elle. « Quelque chose préoccupe ma petite fille, » dit-il en lui mettant un doigt sous le menton. Elle rougit. « C'est vrai, » murmura-t-elle à voix basse.
« Qu'est-ce que c'est? Peux-tu me le dire ?»«
Papa, je voudrais bien gagner un peu d'argent. »
Le docteur eut l'air surpris. « Je te croyais perdu dans des rêvasseries, mais tes souhaits ont au contraire un caractère très positif. De l'argent, Frédégonde, tu en avais, si je ne me trompe. »
« Je l'ai dépensé. J'ai fait faire des portefeuilles pour des herbiers. Il ne me reste que 1 franc et 15 centimes. »«
Et tu désires en avoir davantage ?»«
Je pourrais le gagner, papa, » dit-elle en s'animant un peu. « Si tu me permettais de te tricoter des chaussettes. » « Mademoiselle Caton dit qu'il t'en faut 6 paires de neuves pour cet été. Tu me les paierais 1 franc la paire, sans le coton, bien entendu. Je me suis informée, c'est le prix ordinaire. »« Oh, papa, tu me crois avare ? » s'écria-t-elle en rougissant jusqu'aux cheveux, car un sourire un peu ironique venait de passer sur les lèvres de son père.
« J'ai entendu dire, dit-il, qu'il y a des petites filles qui tricotent des chaussettes à leur papa sans se les faire payer. »
« Je t'en tricoterai des centaines de paires, plus tard, papa, l'année prochaine. Mais à présent, je voudrais tant gagner quelque chose. Dis oui, je t'en prie, dis oui !»
Son père ne lui demanda pas « Que feras-tu de cet argent ?» Il avait, comme nous l'avons déjà vu, des idées particulières sur l'éducation. Il estimait qu'il faut laisser aux enfants quelques libertés d'action si l'on souhaite que leur volonté se développe. Il se contenta de regarder gravement Ferdine et de lui dire « Si je l'exigeais, tu pourrais me confier ton petit secret sans rougir, n'est-ce pas ?»«
Oh, certainement, papa !» répondit-elle en levant vers lui ses grands yeux sincères. « Il n'est qu'à moitié à moi, ce secret. Sans cela, je te le dirai tout de suite. »
« Parfaitement. Achève ton problème, puis tu iras prier ta bonne de te procurer du coton pour des chaussettes. » Ferdine embrassa son père avec un sentiment de vive gratitude et un accroissement de son affection filiale.
« Il ne m'a pas questionnée, il a confiance en moi, » pensait-elle. « Quel bon père ! Il ne me caresse pas beaucoup, c'est vrai, mais il respecte mes secrets comme ceux d'une grande personne. »
Le même jour, vers 4 heures de l'après-midi, Ferdine était à la grille du jardin, attendant Siméon. Bientôt, la cloche de l'école annonça la sortie. Et quelques minutes plus tard, une foule de petits garçons et de fillettes se précipitait en se bousculant dans la rue. Siméon, ses livres sous le bras, sortit plus gravement. Il était le doyen des élèves qui le considéraient un peu comme une sorte de sous-maître. L'instituteur le chargeait souvent de corriger les dictées et les additions des petits, ou même parfois de donner une leçon d'histoire naturelle. Il s'en acquittait fort bien et le village avait une haute opinion des connaissances scientifiques de Siméon Taubert. Pendant le dernier semestre, il avait beaucoup grandi. Il marchait un peu courbé par l'habitude qu'il avait d'être toujours sur ses livres. Il n'était pas beau, ayant la bouche trop grande et le nez peu classique, mais son front large, aux tempes carrées, ses dents blanches, son teint brun, ses yeux gris qui vous regardaient bien en face, parler de santé, d'intelligence et de franchise. Il était gauche dans sa démarche et ses manières, mais très adroit dans tous les mouvements de ses mains, contraste qu'on rencontre souvent chez les garçons de cet âge. Ferdine, qui se moquait souvent de sa timidité en présence des étrangers, admirait son habileté à se tirer d'affaire quand il était seul avec elle et Ernest. Elle aimait à le voir cueillir une plante sans en briser les racines, établir un petit pont sur le ruisseau, ou simplement lancer une pierre, nouer une ficelle. Il avait une façon à lui de s'y prendre, quelque chose de réfléchi, de mesuré, qui allait au but par le plus court chemin. Sous ses doigts, une branche de sureau se changeait en sifflet, un rameau noueux en tête d'oiseau, sans un seul coup de canif superflu ou maladroit. C'était là de fort petits talents, sans doute, mais il y a bien des manières de tailler un sifflet de sureau, et la manière de Siméon, pour un observateur attentif, dénotait toutes ses qualités de rectitude et de précision. « Tiens, c'est toi, Ferdine » fit-il en approchant de la grille du jardin. « Je t'attendais. J'ai une emplette à faire chez Mademoiselle Augustine et tu vas venir avec moi. J'ai cru voir l'inspecteur scolaire traverser la rue tout à l'heure. A-t-il visité ta classe ?»«
Oui, et il m'a interrogé.
Tu n'as pas perdu la tête, au moins ?» fit-elle avec inquiétude. «
c'est que je te connais. Tu deviens rouge, tu bredouilles. »
Non, je n'ai pas trop pataugé. À l'école, je suis sur mon terrain, tu comprends? L'inspecteur a été content de moi, puisque tu veux le savoir.
Que t'a-t-il dit?
Est-ce qu'on répète ces choses-là? Il m'a dit, en résumé, que je ne suis pas plus sot qu'un autre, voilà.
Ferdine, assez peu satisfaite, haussa les épaules, mais comme ils arrivaient à la porte de Mademoiselle Augustine, elle n'insista pas. Mademoiselle Augustine tenait une petite boutique où l'on trouvait un peu de tout, même des chinoiseries, envoyées par un sien neveu qui habitait le lointain Orient. Dans la petite fenêtre qui servait de devanture à ce bazar, on voyait des mandarins en porcelaine, des bâtons de sucre d'orge, des éponges, des macarons et des chaussons de lisière, des pelotons de ficelle et des brosses à dents, et aussi la tête de Mademoiselle Augustine regardant mélancoliquement dans la rue au milieu de ses marchandises. Pourquoi Mademoiselle Augustine était-elle mélancolique? Ferdine avait cherché plus d'une fois, mais en vain, le mot de cette énigme. Peut-on bien voir l'existence autrement qu'en rose quand on a le bonheur de tenir une boutique? Car tenir une boutique était le rêve de Ferdine. Avoir on ne sait combien de tiroirs étiquetés, remplis de semoule, de riz, de cannelle, de noix de muscade, des bocaux de caramel, des pains de sucre rangés en bataille dans l'arrière-magasin, assise sur une haute chaise derrière le comptoir, donner audience aux gamins du village qui, leurs casquettes à la main, viennent offrir un humble sou en échange de quelques billes ou de quelques pruneaux, jeter négligemment dans une sébile la monnaie qu'on reçoit et mettre les grosses pièces à part dans un tiroir fermé à clé, croquer des noisettes et des amandes sans avoir besoin de les acheter ni de demander la permission à personne, n'est-ce pas la chose du monde la plus enivrante? Et pouvait-on concevoir que Mademoiselle Augustine, reine et maîtresse de tant de biens, eût une figure aussi lamentable? « Ses affaires vont mal, elle n'a pas de tête », avait dit un jour Mademoiselle Caton. La tête de Mademoiselle Augustine était cependant fort grosse, à en juger par la circonférence de son capuchon tricoté. Il est vrai que ce capuchon dont elle abritait ses névralgies enveloppait un nombre considérable de bonnets et de foulards superposés. Dans le village, on prétendait que Mademoiselle Augustine attachait un oreiller par-dessus le tout quand le vent tournait à l'est, mais nous avons des raisons de croire que cette affirmation était une pure calomnie. Quand Ferdine et Siméon franchirent le seuil de la boutique, Mademoiselle Augustine, penchée sur un gros livre de contes, en suivait les lignes du doigt et semblait perplexe. « Je croyais l'avoir inscrit, murmurait-elle, mais je ne trouve que 5 douzaines de clous jaunes. »
Comment 5 douzaines de clous jaunes? Vous trouvez ça dans mon compte? S'écria une cliente debout en face d'elle, un panier au bras, la mine sévère et mécontente. Je n'ai jamais acheté de clous jaunes. Vraiment, Mademoiselle Augustine, vous avez un désordre incroyable. Vous êtes toujours à embrouiller le compte de Jacques avec celui de Jean.
Mais si ce n'est pas vous, qui est-ce donc qui a eu ces clous jaunes? Fit Mademoiselle Augustine en se passant la main sur le front.
Est-ce que je sais, moi?
Attendez, la femme à Paul de la Syrie a fait réparer un canapé, elle aura eu besoin de clous neufs.
J'ai si peu de mémoire, dit plaintivement la pauvre marchande.
Raison de plus pour tenir vos livres en ordre.
Ah, Mademoiselle Augustine, vous perdrez votre clientèle, je ne vous dis que ça, bien que chez vous, les marchandises soient toujours de bonne qualité et que vous ne mettiez pas de poussière de buis dans votre poivre comme Grandjean. Grandjean était l'autre épicier du village. Il déployait une remarquable ingéniosité dans la falsification des denrées coloniales, mais il avait un sourire avenant, des prix très bas et une comptabilité parfaite, tandis que l'honnête Mademoiselle Augustine irritait ses pratiques par de continuelles bévues.
« Qu'y a-t-il pour votre service ? » demanda-t-elle à Ferdine d'un ton douloureux quand la cliente fut sortie.
« Un paquet de coton gris à tricoter. »
« Coton gris, voilà le dernier paquet, pourvu que personne ne vienne m'en demander aujourd'hui. J'aurais dû commander un nouvel envoi, mais j'ai oublié d'écrire. J'écrirai ce soir, à moins que je n'oublie de nouveau. »«
Inscrivez-le sur une ardoise, » suggéra Ferdine.
« Vous avez raison, c'est une bonne idée. Mais quand le soir vient, je suis trop fatiguée pour me mettre à écrire et je renvoie au lendemain. C'est comme pour mes comptes. Si je les débrouillais chaque soir, j'aurais moins d'erreurs. Le plus souvent, j'attends jusqu'au dimanche, mais alors je ne me souviens plus. J'inscris tout de travers et les gens se fâchent.
Vous devriez avoir, dit Séméon, un calepin dans lequel vous inscririez au fur et à mesure tout ce que vous vendez avec le nom de la personne. Vous porteriez ensuite cela dans votre grand livre.
Assurément, fit Mademoiselle Augustine avec vivacité. C'est bien là mon principe, mais voyez-vous, le temps me manque. Et puis, il faut tout dire, je n'ai pas la tête bien organisée. Tout est sens dessus dessous là-dedans.
Elle s'appliqua une petite tape sur le front, poussa un grand soupir, puis resta immobile, les deux mains sur le comptoir, à regarder Siméon d'un air absorbé. Lui aussi la regardait. On aurait dit que la même pensée leur était venue à tous deux en même temps.
« Combien coûte ce paquet de coton, s'il vous plaît ?» dit Ferdine pour amener la marchande au sentiment de la situation.
« Oui, oui, ma chère, j'oubliais. »
Mais elle ne détourna pas ses yeux de Siméon. Quelque idée, difficile à énoncer, lui trottait évidemment dans l'esprit.
« On dit que vous êtes un bon élève, » commença-t-elle.
« Très bon, » répondit-il avec le plus grand calme. Ferdine en fut presque suffoquée. Était-ce bien là Siméon, le modeste Siméon, qui, tout à l'heure, refusait de lui répéter les quelques mots de louange prononcés par l'inspecteur ?
« Vous avez une bonne orthographe, j'ai entendu l'instituteur parler de vous. Vous comptez bien ?»«
Il sait l'algèbre, » dit Ferdine.
« Et vous sauriez ?»«
Je saurais tenir vos comptes, écrire vos lettres, additionner vos factures, vérifier les comptes courants, » dit Siméon tout d'une haleine. La figure de Mademoiselle Augustine s'épanouit subitement dans un éclat de rire.
« Ah, qu'il est donc malin, cet enfant !» s'écria-t-elle. « Il m'a deviné comme cela tout de suite. Il ne m'a pas laissé le temps d'ouvrir la bouche. Puisque vous avez tant d'esprit, mon garçon, vous pourrez sans doute me dire ce que je vous donnerai pour tenir mes comptes.
2 francs par semaine. »«
Oh là là !» fit Mademoiselle Augustine en redevenant subitement grave. « Comme vous y allez, 2 francs par semaine, 8 francs par mois, vous croyez que je vous donnerai cela ?»«
Certainement, et vous l'aurez bien vite regagné. » Vous perdez plus que cela en erreur de facture.
2 francs par semaine, c'est fort raisonnable. À 2 heures par jour, cela fait, voyons, 16 centimes et 2/3 par heure.
Comme il calcule, s'écria Mademoiselle Augustine, pleine d'admiration.
Attendez, je vais vérifier cela, et si le compte est juste, je vous prends.
Elle fureta dans la poche de son tablier pour y trouver un crayon. Puis, sur un vieux cornet, elle aligna laborieusement de gros chiffres maladroits qui donnèrent un fou rire à Siméon et à Ferdine.
« 2 × 6, 12, 12 heures, je pose ma division, 2 heures par 2 francs. »«
Non, non, 2 francs ou 200 centimes divisé par 12 heures, dit Siméon.
« Oui, c'est cela, vous avez raison. Et je trouve 16 centimes, reste 8. »
« Ah, mon garçon, vous vous êtes trompé, il reste 8 et vous disiez 2/3. »«
Mais c'est la même chose, 8/12 ou 2/3, je vais vous expliquer cela. »
Il lui prit son crayon et lui fit, aussi clairement qu'il put, une démonstration où elle ne vit que du feu, mais qui augmenta son respect pour la science de Siméon.
« C'est entendu, je vous engage à 2 francs par semaine. »
« Il faut encore la permission de ma tante. »
« Allez vite la lui demander et apportez-moi la réponse. »
À peine hors de la boutique, Ferdine sauta de joie, puis regarda Siméon d'un air narquois.
« Sais-tu, dit-elle, que tu t'entends joliment à te vanter ?»«
Il fallait bien, répondit-il en rougissant jusqu'aux oreilles. Si j'avais fait le modeste, elle serait allée consulter l'instituteur, le préposé, tout le village, et elle aurait changé d'idée en chemin. J'ai battu le fer pendant qu'il était chaud. »
« C'est bien, dit Ferdine, mais ne recommence pas, cela ne te sied pas du tout. »«
Oh, Siméon, comme nous allons être riches, 8 francs par mois. Elle dira oui, ta tante, n'est-ce pas ?»«
Je l'espère bien, elle trouve elle-même que j'ai trop de temps à perdre. »«
C'est comme moi. À propos, Siméon, as-tu une tirelire ?»«
Non, mais j'en fabriquerai une. »«
Il y en a de jolies chez Grandjean. » dit Ferdine, qui aimait à faire des achats.
« Et tu crois que je vais favoriser la concurrence ?
moi, l'associé commanditaire du premier commerce d'épicerie de la localité. J'espère, madame, dit-il avec un grand salut, que vous me ferez l'honneur de vous servir chez moi. Nous avons reçu un choix de café parfait, des chéribons surtout, un joli grain rond.
Mon mari préfère le bourbon, dit Ferdine en levant le menton pour se grandir.
Puis elle éclata de rire et Siméon cria « Vive Mademoiselle Augustine !» en lançant son chapeau en l'air malgré la dignité de ses 15 ans et demi.